peut-être. Mais cependant, mystérieusement, il y a une unité de direction qui s'est... Cet effort-là consiste à faire... Alors, chaque grain de blé, ici, le côté national, là, et le côté religieux, va finalement se séparer l'un de l'autre. Je reviens à un point de votre question tout à l'heure, je crois que c'est maintenant sa place. En fait, comme vous le savez, il n'y a pas que deux pouvoirs dans la société hébraïque. Le pouvoir sacerdotal, j'ai changé de mot, pas religieux, le Kohen, et le pouvoir politique, le Melech, le prêtre, le roi, il y en avait quatre. Il y avait aussi le juge et le prophète. Et alors que ces deux forces vont en divergent, le Kohen et le Melech, parce que le Kohen s'occupe de diriger Israël vers le monde à venir, tandis que le Melech s'occupe de diriger Israël dans ce monde-ci. Et ça ne peut pas aller ensemble. Ce que l'âme demande, c'est très souvent le contraire de ce que le corps demande. Et ce que le corps demande, c'est très souvent le contraire de ce que l'âme demande. Il faut les satisfaire les deux. Pour un, il faut un Melech, Joseph. Pour Mashbir, okay. Pour l'autre, il faut le Kohen. Mais les forces qui unifient, c'est le Shofet et le Navi, c'est-à-dire le juge et le prophète. C'est-à-dire comment parler des choses d'en bas selon les règles d'en haut, ça c'est le Shofet. Et comment parler des choses d'en haut selon les règles d'en bas, ça c'est le Navi. Formule sibylline, mais vous comprenez ce que... Donc, nous étions dans ce premier exemple chez l'Iframim, Midgal et Netia, les Hosek Aleumi, à Homri, les Yeter Atzrachim, à Enoshim, à Kolelim. Le renforcement de l'entité nationale au niveau matériel et le reste des besoins humains généraux. Tout ce qu'on appelle l'organisation d'une société au niveau temporel. Alors, c'est parfois cela qui est renforcé. Je ne sais pas quel exemple vous donner dans la société juive en France. Disons, immédiatement après la guerre, l'effort de la communauté a été de s'organiser à ce niveau civique, national. Il en est sorti ce qu'on pourrait appeler le Fonds Social Juif Unifié, le FSU. Okay. Type d'organisation qui n'existait pas du tout. Parce que jusqu'à la fin de la période précédente, l'organisation de la communauté, c'était le consistoire, c'est-à-dire l'organisation de la vie spirituelle. Mettez tout ça entre guillemets, parce que ce sont des directions de définition. Okay. Et il semble que ces dernières années, eh bien, étant donné que les tâches qu'il y avait à reconstituer de la sauvegarde physique des Juifs ont été suffisamment consolidées, le Fonds social n'a plus rien à faire, et comme les Juifs veulent manger kasher, le principal budget, c'est au consistoire. Vous avez compris le problème. Alors, il y a un jeu de bascule. Tant que ces juifs-là se marient entre eux, c'est très bien. Mais dès qu'ils commencent à se regarder, c'est plus bien. Je me rappelle d'une anecdote de ma vie à Paris. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté une fois, mais je crois que c'est très typique de cette espèce d'invraisemblance des définitions des catégories de l'identité juive vues par un sociologue qui serait à l'extérieur et qui n'arriverait pas à comprendre s'il projetait ses propres catégories de la sociologie occidentale sur la vie juive. Je m'occupais à un certain moment de l'Union des étudiants, juifs de France bien sûr, et à l'époque on avait commencé à organiser les camps d'été et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des juifs qui mangeaient cachère. Il fallait donc qu'il y ait une cuisine cachère dans le camp des étudiants juifs. Réaction de la majorité des étudiants qui ne mangeaient pas cachère, qui aurait considéré comme une loi anti-juive de les obliger à manger cachère. Vous voyez la mentalité. Et c'était comme ça la réalité. Et alors finalement, comme j'étais le président de l'histoire, par courtoisie personnelle, on a envisagé la possibilité de faire quand même un petit coin cachère pour ceux qui voulaient manger cachère. Un peu comme dans certains kibboutzim non religieux, pour les grands-parents, il faut une cuisine cachère. Mais dans beaucoup de kibboutzim non religieux qui ont commencé comme ça, les petits-enfants déjà, non, je sais pas. Et alors, je suis allé voir le grand rabbin de Paris de l'époque, et je lui ai dit mon problème. Il dit, voilà, nous avons un camp d'été, c'était juste après la guerre, hein, 2-3 ans après la guerre. Et seulement voilà, pour que nous ayons une cuisine cachère, il nous faut un budget supplémentaire, parce que la viande cachère, ça coûte beaucoup plus cher, il faut payer aussi une cuisinière cachère, etc. Il me dit, vous avez besoin de combien? J'ai dit de temps, et c'était pour l'époque important. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ces camps-là? Il dit, bon, il y a des exposés de politique, bon, il y a des balles, il y a des excursions, il y a des... Enfin, un peu d'histoire, lui. Bon, ça va pas, ça. Et le judaïsme, là-dedans. Il dit, mais vous savez, c'est quand même important, parce qu'à la fin de chaque camp, il y a 4 ou 5 couples qui se marient ensemble. Alors il m'a dit, combien vous avez dit? Alors, voilà. Vous voyez qu'il y a des moments où le souci de national du peuple va prendre le pas. Alors qu'il y a d'autres moments où, quand tout va bien, apparemment, le FSJU n'a plus rien à faire, alors il faut se préoccuper de l'autre dimension. Est-ce que cachère, c'est cachère? Et c'est là que ça s'exagère, parce qu'on ne s'occupe que de ça, et vous avez cachroute, une étoile, deux étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Et vous voyez les deux caricatures qui risquent de... Je pense que c'est clair. Donc, le renforcement des besoins humains généraux chez Noveah Beikaro, qui procède essentiellement du fondement de la tendance spécifique, particulière de Joseph et d'Ephraïm. C'est-à-dire, parfois, dans l'histoire de la vie juive de l'exil, c'est la tendance Joseph qui a pris le dessus. C'est-à-dire, on s'est occupé des affaires juives et non pas des affaires du judaïsme. Bon. Veliframim, mitnaeret, et parfois s'éveille à netiya ruchani, la tendance spirituelle, les kiyuma shel Torah, du fait de faire que la Torah soit présente, littéralement. Ve afrahat, et la floraison, fructification, comment dire, faire fleurir, comment on dit, épanouissement, si vous voulez. Atzad haruchani ameyuchad leIsraël, de la dimension spirituelle spécifique d'Israël. Leharim keren briat Hashem. C'est-à-dire briat Hashem. De la forme du mot employé pris de verset. Mais je vous donne l'idée, littéralement, de dresser la corne keren. Ça veut dire de dresser le front, je ne sais pas, la couronne, plutôt, de la crainte de Dieu, behavato, de son amour. Bahavat shel Torah vedrachea, l'amour de la Torah et des chemins qu'elle trace. Bahasher she kafu poleah. Shira? Ah, she kemo poleah bokeah baaret nivzeru atzmenu lefi sheol. Et lorsque tout ceci se disperse, alors nos propres ossements, atzmenu, notre propre essence, se disperse aussi devant le Sheol. Et vous savez que le Sheol, c'est un des noms de l'enfer. Voilà. Vers Koach, Améachet, mais la force qui unifie, Amakif, qui totalise, qui entoure, qui généralise, et pour aller en Éthiopie, des Yesod Echad, ce qui, les œuvres qui sont en acte dans les tendances qui mèneraient à un même fondement, un fondement unique, l'Iyot Mashpi'im ou Mushpa'im, pour être influençant et influencé, des Yahad, ensemble, Kol Echad le Fi'al Ko, chacun suivant sa valeur, chacun suivant sa compétence, ou la haid à anhaga beadragat atzadanu aruhani, et pour unifier anhaga, la direction des comportements, le comportement par degré du côté spirituel, beofan sheu yehi amechazek veanoten chayim lechol yeter achalakim, afin que ce soit lui qui soit unifiant, plus exactement qu'il renforce et qu'il donne vie à toutes les autres fonctions, que koach haya neshama, à la manière de la vie de l'âme, Amechaye est à gouf l'échol halakav, qui fait vivre le corps dans toutes ses fonctions. Bacher Iefchar le Umatenu, et par le fait qu'il est impossible pour notre nation, chez Tavol et Terudata, d'arriver à son objectif, d'arriver à la réalisation de son être, à Romema, élevé. Lissa Begeon Oz Shemashev, d'élever avec majesté la force du nom de Dieu, Anikra Alea, qui a été invoquée sur elle, qui im be ishtalma betachlit aercher bishne harakim. Cela n'est possible que si elle arrive à la perfection totale des deux fonctions qui ont été désignées. Aklali, la fonction collective, Chelek Yosef, l'héritage de Joseph, la part que Joseph a à réussir, Veaprati, et l'individuel, Chelek Yehuda, qui est l'héritage de Juda, Malchut ve David, de la royauté de la maison de David. Shemihozek Kocho Aprati, de telle sorte que par la force individuelle, Kolel Hu, Gamken et Tatsadaklali, il puisse inclure lui aussi le côté collectif. Bon, indépendamment du jargon de la traduction, je pense que vous avez compris l'idée. Et elle a été illustrée d'ailleurs de différentes manières déjà. Admoni im yefer enai. Il a été de David, dit de David, roux, mais avec de beaux yeux. La mida, la dimension de son identité qui consiste à diriger la collectivité, mais il a de beaux yeux, il regarde chacun gentiment. Il n'y a pas la dépersonnalisation de la société. Je me souviens d'une formule que les chassidim employaient pour dire l'amour de Dieu. Tous l'aiment, mais lui aime chacun. C'est un peu ce qui est dit dans ce qui est dit de David. Il s'occupe de tous, mais de chacun en particulier. Il est roux, le roi, mais avec de beaux yeux. Je pense que c'est suffisamment clair dans l'image. Hine mit naharim bauma kochot lechol tzad. Or voici, dit le Rav, j'ajoute un mot, que maintenant s'éveille, le maintenant c'est moi qui ajoute, s'éveille dans la nation des forces de tous côtés. Ou que moche a kochot amagbirot et aruchaniyut, et de même que les forces qui développent la spiritualité, Hem Marchirim, les Midat Mashiach Ben David, sont des instruments pour l'objectif, pour la tâche du Mashiach fils de David, Shat Ruda Atachlitit, et Karo Veyesodo, dont la conscience essentielle, finale, est le principe et le fondement, qui Behemet, Merkaz Achaim, Hu, Haït Alut Aruchani, car en fait, il le répète souvent, le centre même de la vie, c'est l'élévation spirituelle, et là chez Iefcha, chez Diya Aruchaniut, mais il est impossible que la spiritualité soit, Mefutahat Karaoui, développée comme il se doit, Im Loïyush Lemim Ima, s'ils ne sont pas parfaits avec eux, Kola Kinyani Mahomriyim, tous les acquis matériels, Anidrashim Laouma Shlema Mishkhlenet, qui sont nécessaires à une nation entière et développée. Et vous voyez que le Rav fait allusion ici à votre question tout à l'heure, l'économie, le Shabbat. Okay? Mais voilà ce qu'il nous explique, et c'est très simple. Il y a Shabbat, et après il y a l'économie, le Shabbat. Et non pas l'inverse. Il n'y a pas l'économie, et puis ces gens-là qui demandent le Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Vous comprenez le... Okay? De même, Aïtnaharut levakesh chosek leumi. L'éveillement, on peut traduire aussi d'ailleurs la lucidité, qui consiste à réclamer le renforcement de la nation comme nation, chomri, au niveau de sa matérialité, ve yeter marchire achayim aklalim, et les autres instruments de la vie généraux, collectifs, hem archarat mashiach ben Yosef. Ça, c'est la préparation de l'identité du Mashiach de Yosef. Et lorsque ils servent en même temps, littéralement mélangés, lorsqu'il y a confusion de leur pouvoir, je reprends la phrase, lorsque l'un s'occupe du travail de l'autre, que c'est arboubia, c'est confus, mélangé. Mitzarat agalout, à cause de la, comment vous avez traduit ça, les malheurs de la galout, mais kotzer adeot ou pizur akohot, à cause de la courte vue dans la connaissance et la dispersion des forces. Hem chevele mashiach, c'est ça qu'on appelle les douleurs d'enfantement du Messie. Est-ce que vous avez compris cette notion de confusion qui risque de s'installer lorsque chacun croit que c'est de son devoir de s'occuper de tout à la fois? Alors c'est ce qu'on appelle une sorte de mise en vrac de toutes les forces qui doivent organiser un organisme qui va naître, et pendant que c'est en stade embryonnaire, alors il y a les douleurs de l'accouchement, parce que ça se contrarie. Imaginez, je ne sais pas moi, une cellule des pieds qui voudrait être une cellule du cerveau. Or il faut des pieds, il faut un cerveau. Une cellule du cœur qui voudrait être une cellule du foie. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle, sûrement, mais ça me permet de vous poser une question qui pour moi reste un mystère. Est-ce que la substance de l'œuf, de son propre stade, semble être absolument indifférenciée? Et voilà que subitement, mystérieusement, elle se différencie avec une programmation vertigineuse, mystérieuse, majestueuse. Et chaque goutte de cette indifférenciation placentaire, je ne sais pas comment, non, pas placentaire, embryonnaire, c'est que ça devient un œil, ça devient un foie, ça devient un os, et ça devient une dent, et ça devient une lèvre. Comment ça se passe? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Alors on nous dit, bon, il y a une programmation qui se fait, mais est-ce que vraiment, au premier stade, c'était indifférencié? Alors je crois que, vous donnerez la réponse si vous l'avez, mais on peut se servir de cette image. Toutes ces forces sont nécessaires au niveau de la société. Mais lorsqu'elles n'ont pas encore trouvé leur système de hiérarchie cohérent et légitime, alors il y a Arboubia. Et Arboubia, c'est le confusionnisme, si j'ose dire. Chacun se croyant la nécessité de décider pour tous les organes à la fois. Vous avez compris que, ici, on va nous donner une image que les 12 tribus d'Israël ont chacune leur fonction dans l'économie de la société. Mais nous n'étions, après 2000 ans d'exil, qu'habitués à l'idée de la vie juive individuelle, privée. Et de même qu'un organisme a tous les organes, mais il y a deux organes principaux, le cœur et le cerveau. Disons, au niveau de la symbolique qui est employée ici, de même, toutes les tribus ont leurs fonctions, mais il y en a deux qui ont deux fonctions principales, la royauté selon Judas et la royauté selon Joseph. L'une, c'est pour les affaires matérielles, et l'autre, c'est pour les affaires spirituelles. Il faut que cette hiérarchie se mette en place, de telle sorte que l'unité de l'ensemble soit réussie. On continue ? J'étais donc arrivé. « Achevle Mashiach, akolelim, chevle, shne meshichim. » Cette expression de « chevle Mashiach »,« havalim », ça veut dire les douleurs, les souffrances. À l'état construit, les souffrances du Messie. « Chevle Mashiach ». Donc il faut donner cette précision. Ce n'est pas les souffrances qu'il y aura au temps du Messie, c'est les souffrances du Messie lui-même. « Chevle Mashiach ». Et le Rav explique que les « chevle Mashiach » concernent les deux Messie. C'est-à-dire l'engendrement de la nation comme telle se fait dans la douleur, et l'engendrement de l'âme qui doit l'animer se fait aussi dans la douleur. Les deux souffrent. Et je crois que il faut peut-être reprendre l'analyse que j'avais faite tout à l'heure pour la relier sur ce point. Le fait qu'effectivement, l'histoire du Messie est une histoire d'accouchement dans la douleur, mais qu'en ce qui concerne la problématique d'identité d'Israël, c'est l'histoire de ce peuple-là, lui-même. Et alors, il cite un verset, « Asher harfu oyvecha Hashem, Asher harfu ekbot meshichecha, qui ont opprimé, qui a opprimé tes ennemis, Dieu, ils ont opprimé les talons de tes messies. Et vous avez déjà là l'expression qui est devenue classique, que lorsque le Messie apparaît, il posera ses talons sur la montagne des Oliviers. Alors, ici, le Rav nous dit qu'il faut préparer la place pour deux fois deux. C'est au pluriel. Ekbe Meshichecha. Les talons du Mashiach. Au pluriel. Shtei Akevot Shel Tren Meshichim. Il s'est dit en araméen, les deux talons des deux Messies. Veine, voici. Peaulat Mashiach Ben Yosef. L'œuvre du Messie, fils de Joseph. Chétihi Aarshara Kolelet, qui est la préparation de la nation comme collectivité. Afralpi, Shevadai Tiye, Imze, Memulet, Bedaad et Irat Hashem, Shenimtset, Arbe Gamken, bien qu'elle impliquera connaissance et crainte de Dieu, qu'on trouvera abondamment aussi. Voilà ce qu'il veut dire. L'œuvre du Mashiach Ben Yosef a un objectif spécifique, faire exister la nation. Et même si les gens qui s'en occupent de se faire exister la nation ont piété, c'est pas le sujet. Est-ce que c'est clair? Disons, ça vaut peut-être mieux, mais c'est pas ça le problème. Le problème pour le Mashiach Ben Yosef, c'est de préparer la nation en tant que nation. Les tachlit archarat klal ha'enushit, en vue que ce soit le modèle de préparation de l'universel humain. Là, inévitablement, le Rav se raccroche au contenu même de l'ensemble des prophéties concernant les temps messianiques, c'est qu'il s'agit de créer la société qui sera le modèle pris par l'humanité entière. Peut-être ça vaut la peine tout à l'heure de réanalyser ce point-là. Je dirais peut-être sous cette forme que, à la limite, il s'agit de donner un modèle de municipalité humaine, la municipalité israélienne, escalité, qui rassemble tous les problèmes des conflits de l'identité humaine en général, un peu sous forme de creuset de laboratoire, de telle sorte de montrer l'éventualité d'une ébauche, d'une solution possible, dont toutes les sociétés sont à la recherche. Et peut-être que confusément, c'est un peu cela que le monde entier attend de l'Israël contemporain, avec une tellement grande impatience qu'il a oublié qu'il faut 9 mois pour faire un enfant et que ça ne peut pas se faire par une goutte de baguette magique. Top. Mikol Makom, de toute manière, Kivan Shayesod Aikari Amerube Bechuto, étant donné que le fondement essentiel, le plus nombreux dans sa qualité, Sheu Ityahdut Atsura Pratita Israelit, qui est la spécificité de la forme individuelle, je traduis juive, ici israélite, ça ne veut pas dire israélienne, israélite, propre à Israël, Be'id Gabra, lorsqu'elle se dévoilera définitivement, Eno Bolet Bokolkar n'est pas tellement apparent. Voilà ce qu'il veut dire. C'est qu'au premier stade, c'est l'œuvre du Mashiach Ben Yosef. Il s'agit de construire la nation comme telle. Et dans ce premier stade, l'excellence de l'identité individuelle qui est l'œuvre du Mashiach Ben David n'est pas tellement évidente. Parce que ce qui est bolet, ce qui est dominant, évident, c'est la restauration de l'identité collective, celle qui est l'objectif du Mashiach Ben Yosef. Yif Charlo Leit Kayem Alken Atid Mashiach Ben Yosef Yod Neherag. Et comme ce stade-là ne pourra pas subsister éternellement, c'est pourquoi le Mashiach Ben Yosef est destiné à être tué. Vous vous rappelez qu'on a étudié cela au début? Omnam, Keshe Yahareg, Yakiru Hakol, Aivut. Lorsqu'il sera tué, tout le monde en reconnaîtra la faute que cela représente. Chez Omnam, car cela signifie que l'Ohayado, la génération, n'était pas comme il se doit, l'Ohayarahu, il est acquis pour reconnaître, à errer chez la Netiya, la valeur de cette tendance, les Tigboret Kolelet, du renforcement de la collectivité comme telle, Ech le kabel mimena rakato. Comment on peut recevoir d'elle que le bien. Vetato vehemet le kabel est le bien qui est reçu en vérité. Oul le charbeda est la servir les toke fatsada ayon chez Betrodat Israël pour dans la force du niveau le plus supérieur de la conscience d'Israël qui est Meshriut Bet David, qui est la messianité de David. En d'autres termes, le rabbin dit ici, c'est que si le stade du Machiav Ben Yosef, je veux dire autrement, le stade du Machiav Ben Yosef peut réussir par lui-même. Ça veut dire, il se peut qu'il y ait un stade de construction de la nation comme telle qui fasse que la valeur spirituelle de l'individu soit portée. Alors, c'est ce stade-là qui est le stade définitif. Sinon, il laissera la place à un deuxième stade, qui est celui du Machiav Ben David, le Machiav Ben Yosef ayant disparu. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je crois que, je vais prendre un exemple concret, puisqu'il s'agit de la société israélienne. Si la société israélienne arrive rapidement dans sa spécificité nationale, et qui en tant que nationale n'a pas à être religieuse, à porter de façon évidente l'identité spirituelle plutôt que religieuse de chaque individu en Israël, c'est ce stade-là de la nation d'Israël comme telle qui nous fait entrer dans le temps de la messianité de David. Sinon, il est détruit catastrophiquement dans la symbolique du Midrash cité, le Machiav Ben Yosef est tué pour pouvoir passer au stade supérieur. Alors, je crois que personne n'est en mesure de diagnostiquer dans quel sens cela va. On peut simplement projeter ses propres espérances, disons. Pour certains, il semble que ça va très mal. Il faudra que l'État disparaisse, que l'État d'Israël disparaisse pour que la communauté juive s'y installe. Vous avez compris un peu ce que je veux dire. Pour l'autre, au contraire, il est absolument évident que l'État d'Israël est la matrice de la communauté juive qui doit s'y installer. Et je pense que il suffit de définir ces deux options purement et simplement pour savoir que la première est radicalement invraisemblable. Ça veut dire l'idée qu'il faudrait que l'israélité israélienne disparaisse pour que l'identité juive ressuscite, c'est la première thèse, ou au contraire l'idée que c'est l'israélité israélienne qui est la matrice qui porte l'identité juive hébraïque de l'avenir. Alors chacun choisit suivant son option propre. Les uns habitent Jérusalem, les autres habitent Brooklyn. Et font des voyages à Jérusalem. Et dans cette éventualité, Vesafdu alav, kemisped alayachid. Le verset dit, et on revient au texte de Zacharie qui avait commencé. Et on a dit sur lui l'oraison funèbre, kemisped alayachid, comme on le dit de quelqu'un qui est l'unique. Yahid. Ve hamer alav ke hamer ala bechor. Et on a vécu l'amertume pour lui comme on vit l'amertume pour le fils aîné lorsque c'est lui qui disparaît. Ça veut dire que on nous a donné, vous rappelez, d'après Yonatan Ben Uziel, qui était le traducteur en araméen, un exemple de ce à quoi le prophète faisait allusion en disant il y aura un jour un grand deuil à Jérusalem. Rappelez-vous le deuil qu'il y a eu pour le roi du royaume du Nord. Vous vous rappelez ? Or, le roi du royaume du Nord était un de ces rois d'Israël qui ne s'occupait que de la partie Joseph. Et pourtant, lorsqu'il est mort, on lui a fait un grand deuil. Le deuxième exemple qui avait été donné, c'est un des rois du royaume du Sud. Et le roi du royaume du Sud ne s'occupait que des problèmes, des affaires de Juda. Et pourtant, on lui a fait un grand deuil. Je ne sais pas comment vous dire d'une autre manière. Imaginez que puisse arriver qu'un grand juif laïque meure, alors toute la communauté, même religieuse, est là. Ou qu'un grand juif religieux meure, toute la communauté juive, même laïque, est là. C'est ça qu'il veut dire. Et il se sert de ce verset pour dire que il peut arriver que l'identité Machiav Ben Yosef est à disparaître si elle n'arrive pas à être véhicule de l'engendrement du Machiav Ben David. Mais, comme nous l'avons appris au début, la tradition de prière que je vous ai citée, elle s'est opposée à cette éventualité d'un mécanisme naturel qui pourrait fonctionner comme ça, en sachant très bien qu'il y avait le risque. C'est-à-dire, les maîtres d'Israël connaissaient leur peuple. Ils savaient très bien qu'il y avait ce risque que le Machar Ben Yosef finisse par disparaître. Alors ils ont prié pour qu'il ne disparaisse pas. Et je vais vous donner un exemple au début du séminaire qui nous montre que tout se passe comme si cette prière avait réussi. Je veux dire, le conflit est encore là. Les Juifs de Juda, qui ne sont que Juda, ne souhaitent qu'une chose, c'est que l'État d'Israël disparaisse. Mais je crois que la majorité du peuple juif, en tant que tel, sait très bien que c'est l'État d'Israël, comme il est avec toutes ses difficultés, avec tout son caractère chiloni, qui gêne beaucoup les Juifs des communautés religieuses. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que finalement, il y a une accusation contradictoire contre l'identité israélienne contemporaine. On accuse à la fois d'être un État laïque et d'être un État théologique. Je ne sais pas comment on s'arrange, mais les deux accusations sont là. Okay, que c'est elle cependant, que c'est lui cependant, qui est la matrice d'engendrement de l'être messianique. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous sommes à un stade où le sentiment d'issue de la conscience juive au niveau des populations et à travers les familles est d'un côté, et que la catégorisation idéologique de ces mêmes hommes est qualité d'institution et d'un autre. Vous avez compris ce que je n'ai pas réussi à dire. Je vous donne un exemple. Vous avez des leaders d'une attitude anti-israélienne au nom de la religion juive, les juifs de Juda qui ne comprennent pas Joseph, qui, est-ce qualité de chef d'institution, de parti, ou de mouvement, ou de secte, sont d'une violence absolue contre l'idée qu'Israël est juif, que c'est ça, juif. Mais ils s'arrangent pour faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'un de leurs petits-enfants soit dans une yeshiva là-bas ou dans un kibbutz, de telle sorte qu'on ne sait jamais, quand il faudra dire Kaddish, que ce soit dit là-bas. J'ai remarqué ça. Alors ils nous diront, alors là ils font partie de la population juive tout court, qui elle est vraiment autour de ce premier stade, ma chère Ben Yosef. Même, et y compris les juifs de Juda, qui ne comprennent pas Joseph. C'est clair dans le vocabulaire. Et je crois que, si vous voulez, globalement, l'histoire a déjà donné son verdict. Le Machar Ben Yosef ne disparaîtra pas. Peut-être que on peut citer en filigrane ce qui est le thème des sempiternels des discours des présidents des États-Unis. Chaque fois qu'ils sont contre Israël, il y a toujours cette phrase, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'Israël ne disparaisse pas. Vous avez remarqué ça. Mais c'est un peu aussi le sentiment plus ou moins diffus ou indifférencié de la communauté juive en général. C'est-à-dire qu'il y avait ce risque que le peuple juif accouche d'un monstre, c'est-à-dire d'un état de juif qui ne serait plus rien en tant que juif. Vous comprenez? Eh bien, ce n'est pas le cas. Et alors, chacun est sur sa lancée d'analyse ou de diagnostic idéologique, mais c'est cette éventualité que le Rav a voulu citer. En disant, encore une fois, l'aspect spécifique d'un nationalisme israélien en termes contemporains, coupé du judaïsme en tant que tel, parce que c'est Joseph qui ne connaît pas Juda qui travaille, ça, si c'est comme ça, ça finira par disparaître. Je crois que le développement des événements montre que c'est pas cela, cette voie-là que l'histoire a prise. L'histoire a pris la voie d'un accouchement par Joseph, d'un fils de David. L'accouchement est difficile, révélé Mashiach, mais c'est cela qui se fait. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'en son temps, le Rav Kook était probablement le seul à penser comme lui-même. Mais que de notre temps, tous les Juifs pensent comme ça, même s'ils disent le contraire. Je pense que c'est clair. À ce sujet, Rabotai, je voudrais reprendre un autre texte du Rav dans un autre livre dont je vais vous donner la référence et qui éclaire cette ligne de lecture de son analyse. Vous me direz, certains d'entre vous, il me semble que lorsque nous avons fait un séminaire sur les différents niveaux de la Neshama, on en avait parlé une fois. Enfin, je vais reprendre un peu toutes ces définitions. Vous allez avoir un éclairage un peu plus particulier sur ce que le moment de l'analyse de l'horreur a abouti, c'est-à-dire cet état d'anormalité. Et à la limite, vous avez certains auteurs israéliens contemporains, pas forcément religieux d'ailleurs, vous avez entendu parler de Aleph Beth Yoshua, après. Et sans aller jusqu'à l'exagération du vocabulaire qu'il emploie, c'est tout à fait l'enseignement du Rav Kook, mais formulé par un écrivain chiloni, où il parle d'une identité pathologique de l'identité juive lorsqu'elle est au niveau de son anormalité. À la Beit Yehoshua, ça fait des années qu'on essaye de se rencontrer une semaine pour se parler, parce que finalement, il me semble que nous disons à peu près la même chose dans deux registres complètement différents. Seulement, je sais que son vocabulaire est très extrémiste, très agressif, très... C'est pas pour vous dire que le mien ne l'est pas, je sais comme il dit, mais sur ce point, en tout cas, et cela vient de ce que le Rav dit dans beaucoup de ses œuvres, avec un vocabulaire extrêmement gentil. Vous remarquez d'ailleurs, les hébraïsants, que le vocabulaire du Rav, le style du Rav est très poétique en hébreu. Il a une langue hébraïque à lui tout seul, si j'ose dire. Et c'est pourquoi parfois, certaines nuances de son texte sont difficiles à rendre dans une autre langue que l'hébreu elle-même. Mais ce que le Rav pense, c'est que, sur ce point, c'est que l'identité juive de la Galoute a été une identité juive anormale, parce que précisément elle a vécu au paroxysme cette cassure de ces deux dimensions d'identité, et que chacune d'entre elles est malade de ne pas avoir l'autre. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je dis? Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas eu des juifs de l'un et de l'autre, absolument sains d'esprit et de corps, mais pas en tant que juifs, en tant qu'homme. À l'échelle, si vous voulez, d'une identité humaine anthropologique. Je ne sais pas si c'est un moment de miséricorde, mais on a moins chaud, c'est vrai? Ah, top. Et alors, en particulier, je vous cite à la Beit Yehoshua, mais c'est toute une tendance de la littérature israélienne, surtout de gens qui sont nés déjà dans le pays. À la Beit Yehoshua, lui, est d'une très ancienne famille sfarade de Jérusalem. Son grand-père était un très grand rave, d'ailleurs, lui est chiloni, mais enfin, je pense que quand il va chez les juifs religieux, il mange cachet. En tout cas, pour revenir au problème, pour vous donner d'ailleurs un petit exemple en passant, c'est pas de lui que je l'ai entendu, mais d'un de ses collègues, de la nécessité de convivialité avec un peu d'humour. Il y a, vous savez, dans la vie israélienne, un affrontement entre les partis. Mais, à l'échelle individuelle, il y a tellement d'intérêts communs à résoudre que dans les coulisses des partis, vous avez parfois un délégué d'un parti religieux qui tombe dans les bras d'un délégué du MAPAM, mais réciproquement, parce qu'ils ont une affaire commune à résoudre. Bon. Et alors, comme c'est l'heure du déjeuner, bientôt, il faut aller décider de manger. Alors, étant donné que l'un mange cachère et l'autre pas, la moindre des choses, c'est que les deux aillent dans un restaurant cachère, parce que celui qui mange cachère ne peut pas aller dans l'autre, mais celui qui ne mange pas cachère peut aller dans le restaurant cachère. Alors on raconte la blague suivante. Et qu'un jour, un délégué du MAPAM avait discuté avec un délégué du Mizrahi. Alors le Mizrahi a dit, bon, alors on va aller chez Atara, là-bas c'est cachère. L'autre réfugié a dit, bon, ça fait rien, je prendrai deux œufs sur le plat. Surtout qu'on ne le voit pas manger cachère. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là. Mais alors, si on n'arrive pas à maîtriser cela avec un minimum d'humour, alors se dévoile cette situation qui obsède à la Beit Yehoshua dans ses romans, c'est que le juif est malade d'une maladie qui consiste à manquer de la moitié de son identité chaque fois. Et je dis bien, c'est pas du tout pour faire un jeu de balance. Les deux côtés sont anormaux, parce que chacun des deux s'est coupé de l'autre. Et je crois qu'il faut prendre les mots que j'emploie dans leur sens simple. Je pourrais employer l'image suivante. C'est que le corps humain a deux mains, et on ne fera jamais que l'une soit l'autre. Et les deux sont indispensables. La main gauche ne coïncidera jamais avec la main droite. Comment faire entrer l'une dans l'autre? Il faut passer dans la quatrième dimension. Vous comprenez ce que je veux dire? Les deux sont absolument nécessaires, authentiques, légitimes, mais l'une, c'est pas l'autre. Et alors, si on n'a qu'une main, que ce soit celle-là ou celle-là, on est manchot, purement et simplement. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de les faire se joindre. Je pense que vous avez dû voir dans beaucoup d'imageries juives de l'Antiquité le symbole des deux mains jointes. Peut-être que ça veut dire aussi cela. Et alors, le Rav a insisté là-dessus, dans le texte que je vais vous lire, et que je voudrais éclairer par deux définitions. Dans les fonctions de la personne humaine, je vais schématiser en disant dans les fonctions de l'âme, qui sont au nombre de 5, mais dont je ne parlerai que des deux inférieurs, il y a d'abord le niveau de l'âme qui s'appelle le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme insérée à travers le corps dans la vie de ce monde. Et c'est pourquoi le nefesh désigne ce qu'on peut appeler, dans les termes de la culture générale contemporaine, tout ce que nous appelons la vie instinctive, la vie psychique. Ce n'est pas du comportement purement biologique, c'est psychique, c'est spirituel inférieur, mais c'est le nefesh. Plus haut, il y a le niveau qu'on appelle le ruach, l'esprit. C'est déjà le niveau de la vie spirituelle beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus spiritualisée. Et le nefesh est dirigé vers ce monde-ci, il est extériorisé. C'est le nefesh qui est le problème de Yosef. Le ruach, il est beaucoup plus individualisé, beaucoup plus subjectivisé, il est beaucoup plus tourné vers le monde d'en haut, puisque c'est vers le monde de dedans que vers le monde extérieur. Le ruach, c'est plutôt le problème de Yehuda. C'est clair? Bon. Alors, le Rav va décrire dans ce texte que je vais lire la situation du nefesh et du ruach dans les deux parties lorsqu'elles sont coupées l'une de l'autre. Alors, je vais vous lire ce texte en vous donnant d'abord la référence. C'est à la page 84, Pédalet, du livre Oroth. C'est le paragraphe 43. A Nefesh, chez le poche à Israël, le Nefesh, c'est-à-dire les tendances de vie au niveau de l'insertion de la personne humaine par son corps dans le monde extérieur, le monde d'en bas. Des poches à Israël, ça veut dire de ceux qui se définissent comme étant les pécheurs d'Israël. Disons, la définition que je vais donner immédiatement maintenant n'est pas complète, mais suffisamment approximative, de ceux qui ne pratiquent pas la Torah. Ils sont en faute par rapport à tous les commandements de la Torah. Leur nefesh, de ces poches à Israël, c'est Be'ikavta de Meshicha, qui arriveront au temps des talons du Messie. Vous vous rappelez l'expression? Ça veut dire lorsque le Mashiach posera ses talons sur terre. Si c'est nécessaire, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que les talons du Messie? Mais ça veut dire les générations de la fin des temps de l'exil. Sont appelées les générations des talons du Messie. Alors, de qui il s'agit? Le nefesh, des poches à Israël, du temps de la fin de l'exil. Otam, ceux-là, Shehem Itchavrim Be'ahava et l'Inyanekla l'Israël. Ceux-là qui se relient avec amour au problème de la collectivité d'Israël. C'est-à-dire ces juifs qui ne pratiquent pas la Torah, mais qui s'occupe du travail du Mashiach Ben Yosef. Leur nefesh, c'est clair jusque-là dans l'identification, leur nefesh, et attendez, il y a une précision de plus, Mitravrim Be'ahava et Inyanekla l'Israël, qui se relie avec amour au problème de la collectivité d'Israël, les Eret Israël, à la terre d'Israël, ou Triatahouma, et à la résurrection de la nation comme telle, Hi Yoter Metukenet, leur nefesh, est beaucoup plus en ordre, metukan, tikkun. Quelqu'un m'a posé une question sur le mot de tikkun. Okay? Ça veut dire c'est au point. Okay? Mais à nefesh, que le nefesh, shel shlomé emuné Israël, de ceux qui sont les fidèles de la foi d'Israël, qui ne s'occupent pas de la nation d'Israël. Vous avez compris? Prémenez-vous, attendez, c'est pas fini. Vous avez là nefesh et roi. Alors nous mettons ici Yehuda, et là, Yosef. Alors, lorsque Yehuda est coupé complètement de Joseph, ça veut dire, c'est des juifs religieux, des juifs de la Torah, mais qui n'ont aucun rapport avec l'histoire des talons du Messie, c'est-à-dire que tout ça c'est sur terre, et qu'il s'agit d'une nation terrestre. C'est clair? Ici, les gens de Joseph,